aujourd'hui, 23 janvier 1862, j'ai subi un singulier avertissement. J'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de l'imbécilité. Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? Je ne dis pas que le monde sera réduit aux expédients et aux désordres bouffons des républiques du Sud-Amérique, que peut-être même nous retournerons à l'état sauvage et que nous irons à travers les ruines herbues de notre civilisation chercher notre pâture, un fusil à la main. Non. Car ce sort et ses aventures supposeraient encore une certaine énergie vitale, écho des premiers âges, nouvel exemple et nouvelle victime des inexorables lois morales. Nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura totalement américanisés. Le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien, parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes, ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. De la religion, je crois inutile d'en parler et d'en chercher les restes, puisque se donner encore la peine de nier Dieu est le seul scandale en pareille matière. Mais ce n'est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle ou le progrès universel, car peu m'importe le nom. Ce sera par l'avilissement des cœurs. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l'animalité générale et que les gouvernants seront forcés pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle pourtant si endurcie? Quant à moi qui sens quelquefois en moi le ridicule d'un prophète, je sais que je n'y trouverai jamais la charité d'un médecin. Perdu dans ce vilain monde, coudoyé par les foules, je suis comme un homme lassé, dont l'œil ne voit en arrière dans les années profondes que désabusement et amertume, et devant lui qu'un orage où rien de neuf n'est contenu, ni enseignement, ni douleur. Le soir où cet homme a volé à la destinée quelques heures de plaisir, bercé dans sa digestion, oublieux autant que possible du passé, content du présent et résigné à l'avenir, enivré de son sang-froid et de son dandysme, fier de n'être pas aussi bas que ceux qui passent, il se dit, en contemplant la fumée de son cigare, que m'importe où vont ses consciences. Je crois que j'ai dérivé dans ce que les gens du métier appellent un hors-d'œuvre. Cependant, je laisserai ces pages parce que je veux dater ma colère.
Baudelaire se relit. Au mot « colère », il substitue « tristesse ».
Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons.
J'ai trouvé la définition du beau. De mon beau, c'est quelque chose d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à la conjecture. Une tête séduisante et belle, une tête de femme, veux-je dire, c'est une tête qui fait rêver à la fois, mais d'une manière confuse, de volupté et de tristesse, qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même de satiété. Soit une idée contraire, c'est-à-dire une ardeur, un désir de vivre, associé avec une amertume refluente, comme venant de privation ou de désespérance. Le mystère, le regret sont aussi des caractères du beau. Une belle tête d'homme n'a pas besoin de comporter, excepté peut-être aux yeux d'une femme, cette idée de volupté qui, dans un visage de femme, est une provocation d'autant plus attirante que le visage est généralement plus mélancolique. Mais cette tête contiendra aussi quelque chose d'ardent et de triste. Des besoins spirituels, des ambitions ténébreusement refoulées, l'idée d'une puissance grondante et sans emploi, quelquefois l'idée d'une insensibilité vengeresse, car le type idéal du dandy n'est pas à négliger dans ce sujet. Quelquefois aussi, et c'est l'un des caractères de beauté les plus intéressants, le mystère. Et enfin, pour que j'aie le courage d'avouer jusqu'à quel point je me sens moderne en esthétique, le malheur. Je ne prétends pas que la joie ne puisse pas s'associer avec la beauté, mais je dis que la joie en est un des ornements les plus vulgaires, tandis que la mélancolie en est, pour ainsi dire, l'illustre compagne. À ce point que je ne conçois guère, mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé, un type de beauté où il n'y ait du malheur. Appuyé sur, d'autres diraient, obsédé par ces idées, on conçoit qu'il me serait difficile de ne pas conclure que le plus parfait type de beauté virile est Satan à la manière de Milton.
Eugène Delacroix meurt le 13 août 1863.
Ce fut pour chacun une catastrophe inopinée. Aucun de ses plus vieux amis n'avait été averti que sa santé était en grand danger depuis 3 ou 4 mois. Eugène Delacroix a voulu ne scandaliser personne par le spectacle répugnant d'une agonie. Si une comparaison triviale m'est permise à propos de ce grand homme, je dirais qu'il est mort à la manière des chats ou des bêtes sauvages qui cherchent une tanière secrète pour abriter les dernières convulsions de leur vie.
On vend les tableaux, les dessins d'Eugène Delacroix, et c'est un extraordinaire succès.
Si Eugène Delacroix peut d'un lieu surnaturel assister à cette réhabilitation de son génie, il doit être consolé de 40 ans d'injustice. Les nations n'ont de grands hommes que malgré elles, comme les familles. Le français est un animal de basse-cour, si bien domestiqué qu'il n'ose franchir aucune palissade, voir ses goûts en art et en littérature. C'est un animal de race latine. L'ordure ne lui déplaît pas dans son domicile, et en littérature il est scatophage. Il raffole des excréments. Les littérateurs d'Estaminet appellent cela le sel gaulois.
Baudelaire fuit. Il fuit la France. En avril 1864, il s'installe à Bruxelles pour donner des conférences, pour chercher à publier ses œuvres complètes, pour trouver surtout le rajeunissement depuis si longtemps escompté.
Messieurs, il y a longtemps que j'aspirais à venir parmi vous et à faire votre connaissance. Je sentais instinctivement que je serais bien reçu. Pardonnez-moi cette fatuité. Vous l'avez presque encouragé à votre insu. Il y a quelques jours, un de mes amis, un de vos compatriotes, me disait : « C'est singulier, vous avez l'air heureux. Serait-ce donc de n'être plus à Paris ? » En effet, messieurs, je subissais déjà cette sensation de bien-être dont m'ont parlé quelques-uns des Français qui sont venus causer avec vous. Je fais allusion à cette santé intellectuelle, à cette espèce de béatitude nourrie par une atmosphère de liberté et de bonhomie à laquelle nous autres Français nous sommes peu accoutumés, ceux-là surtout, tels que moi, que la France n'a jamais traité en enfant gâté. Et moi qui croyais que la France était un pays absolument barbare, me voici contraint de reconnaître qu'il y a un pays plus barbare que la France. Aujourd'hui, lundi 28 août 1865, par une soirée chaude et humide, j'ai erré à travers les méandres d'une kermesse de rue et dans les rues du coin du Diable, du Rempart des Moines, de Notre-Dame du Sommeil, des Six Jetons et de plusieurs autres, j'ai surpris suspendus en l'air avec une joie vive, de fréquents symptômes de choléra. L'ai-je assez invoqué, ce monstre adoré? Ai-je étudié assez attentivement les signes précurseurs de sa venue? Comme il se fait attendre, l'horrible bien-aimé, cet Attila impartial, ce fléau divin qui ne choisit pas ses victimes. Ai-je assez supplié le Seigneur mon Dieu de l'attirer au plus vite sur les bords puants de la Seine? Et comme je jouirai enfin, en contemplant la grimace de l'agonie de ce hideux peuple, embrassé par les replis de son Styx contrefaçon, de son ruisseau braillaré, qui charrie encore plus d'excréments que l'atmosphère au-dessus se nourrit de mouches. Je jouirai, dis-je, des terreurs et des tortures de la race aux cheveux jaunes nankins et au teint lilas.
Quelques mois plus tôt, Baudelaire avait été atteint d'un diabolique accident. Ensuite, il avait été obligé de sortir, la tête enveloppée d'un mouchoir, comme les charretiers.
J'ai été repris par mes infâmes névralgies. Ce fléau augmente avec l'âge. Autrefois, je ne les subissais que dans les jambes. Actuellement, elles se jettent quelquefois dans la poitrine et dans la tête. Il y a bien longtemps que j'aurais dû vous répondre. Mais j'ai été saisi par une névralgie à la tête qui dure depuis 15 jours. Vous savez que cela rend bête et fou. Voici invariablement la gradation. Je me porte parfaitement bien. Je suis à jeun. Et tout à coup, sans préparation ni cause apparente, je sens du vague, de la distraction, de la stupeur. Et puis une douleur atroce à la tête. Il faut absolument que je tombe, à moins que je ne sois en ce moment-là couché sur le dos. Ensuite, sueur froide, vomissement, longue stupeur. Pour les névralgies, on m'avait fait prendre des pilules composées de quinine, de digital, de belladone et de morphine. Puis, application d'eau sédative et de térébenthine. Très inutile d'ailleurs, ce que je crois. Pour les vertiges, eau de Vichy, valériane, éther, eau de Puluna. Le mal a persisté. Maintenant, des pilules dans la composition desquelles je me souviens qu'il entre de la valériane, ou de l'oxyde de zinc, de la safétida, etc., etc. C'est donc de l'antispasmodique. Le mal persiste. Et le médecin a prononcé le grand mot « hystérie ». En bon français, je jette ma langue au chien.
Gravement malade, Baudelaire connaît l'âpre satisfaction de voir s'intéresser à son œuvre de jeunes écrivains, parmi lesquels Verlaine, qui lui consacre une étude enthousiaste dans l'art.
Il y a du talent chez ces jeunes gens, mais que de folie. Quelles exagérations et quelle infatuation de jeunesse. Depuis quelques années, je surprenais ça et là des imitations et des tendances qui m'alarmaient. Je ne connais rien de plus compromettant que les imitateurs et je n'aime rien tant que d'être seul. Mais ce n'est pas possible. Et il paraît que l'école Baudelaire existe.
À la mi-mars 1866, Baudelaire fait une chute dans l'église Saint-Loup à Namur. L'hémiplégie, accompagnée d'aphasie, se déclare peu après. Cloué sur son lit à Bruxelles, il a encore la force de corriger les épreuves des nouvelles fleurs du mal qui paraîtront dans le Parnasse contemporain et d'écrire à son vieil ami Ernest Praron qui vient de lui envoyer un volume de vers.
Je vous suis très reconnaissant
Granon.
Pour le livre Air de flûte que vous avez eu la bonté de m'adresser. Je l'ai rapidement parcouru Et il m'a fait l'effet d'être ce que j'appellerais les annales de l'amitié. J'oubliais de vous remercier aussi du charmant souvenir qui est en tête, une dédicace. Quant à la lecture du volume, je ne puis vous parler que de ce que j'ai déjà lu, La question d'Orient. Je la trouve excellente, magnifiquement rimée et très drôle. J'attire seulement vos yeux sur le vers 5, page 270, qui est faux.
Au début du mois de juillet, Baudelaire est ramené à Paris. Il est placé près de l'Étoile dans la maison de santé du docteur Duval.
Non. Craigne, non. Disait-il. C'étaient les seuls mots qu'il put prononcer. Mais, selon l'intonation qu'il leur donnait, il admirait ou se fâchait. Madame Manet était venue lui jouer du Wagner et il poussait de doux cris de craignant pour exprimer son contentement. Je lui parlais de la femme au perroquet de Courbet qui était cette année-là au salon. Non. Craignant. Dit-il en se fâchant. Il se promenait tête nue dans le jardin, au grand soleil, très chaud, qui le piquait. Ne sentant rien, hélas, comme un fou.
L'irrésistible nuit établit son empire, noire, humide, funeste et pleine de frissons. Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage, et mon pied peureux froisse au bord du marécage des crapauds imprévus et de froids limaçons.
Qui ne se rappelle les déclamations parisiennes lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut correctement, et plus récemment encore, quand un écrivain, Gérard de Nerval, d'une honnêteté admirable, d'une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, délier son âme dans la rue la plus noire qu'il pût trouver. Quelles dégoûtantes homélies! Quel assassinat raffiné!
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Tout l'hiver va rentrer dans mon être. Colère, haine, frisson, horreur, labeur dur et forcé. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe. L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier, infatigable et lourd. Il me semble, bercé par ce choc monotone, qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui ? C'était hier l'été. Voici l'automne. Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.
Vous venez d'entendre Baudelaire par Baudelaire, une émission de Claude Pichoin en collaboration avec Robert Kopp. Texte lu par Michel Bouquet, Alain Cuny, Patrice Galbeau, Jacques Lalande, Bernadette Lange, Jean Levray, Jean-Pierre Lituac, Jean Martin, Pascal Mazotti, Maurice Nazil, Jean Péméja. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 octobre 1967. Vous pouvez la télécharger pendant un an à la page des nuits sur franceculture.fr et la réécouter à volonté.